Exécuté par
qui ?
Fabrice Florent.
Salut Maude.
Re.
Pour les gens, ça fait une semaine, hein, mais pour
oui,
nous, ça fait
vrai.
Environ 3 minutes qu'on avait enregistré cette intro. Maude Ventura, donc si vous, Maude Ventura, qui était autrice, hein, on vous invite à aller réécouter l'introduction parce qu'on se présente un peu plus longuement. L'introduction de ce hors-série estivale dans l'histoire du succès, qui s'intitule A priori bâtir un succès. On n'est pas sûr pendant tout le long, c'est pas sûr qu'on va l'appeler comme ça, mais on va partir là-dessus. Et effectivement, ce premier épisode, on voulait le consacrer à l'idée. Et avoir l'idée. Comment t'as fait toi ? Et déjà, est-ce qu'on peut peut-être commencer par parler de qu'est-ce que c'est pour toi qu'une bonne idée ?
J'adore cette idée d'idée, que je vois un peu, tu vois, comme une petite graine. Mmh. Et qu'est-ce qui est une bonne idée ? Avant ça, en t'écoutant parler, je me disais que, bon, je pense que c'est assez clair, mais j'aime bien cette idée qu'on prenne chronologiquement l'histoire de bâtir un succès et construire un projet long. Donc on part d'où ? D'une idée. Et plus, voilà, plus j'ai réfléchi, plus je me dis que ça s'applique en fait à n'importe qui. Que tu aies envie de devenir freelance en design ou envie de monter ton café ou ta marque de vêtements ou n'importe quoi.
Changer de boîte. Ou de reconversion professionnelle.
Enfin, exactement. Bref. Monter un festival. Peu importe, il y a vraiment ce chemin, ce temps long qui commence donc par l'idée. Et c'est vrai que donc j'ai fait une école de commerce et je me souviens qu'un prof avait dit plusieurs fois, avait insisté sur ce point en disant qu'il n'y avait pas de bonne idée. La bonne idée, c'est n'importe quoi, c'est comment ça va être mis en œuvre. Et ça, j'y crois assez. Dans le sens où c'était un cours sur l'entrepreneuriat, sur monter sa boîte, et il disait, ce qui peut être un peu contre-intuitif, quand vous avez une idée, testez-la. Alors qu'on pourrait se dire, oh, j'ai l'idée du siècle, je vais faire des stores Rosuchia. C'est vraiment l'idée du siècle, c'est génial, etc. Je vais donc le dire à personne, parce que c'est l'idée du siècle. Et justement, le prof disait, non, il faut justement en parler à tout le monde de votre idée pour la tester, et les réactions des gens vont un peu en ping-pong, vous montrer bah, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, va vous donner des idées que vous n'auriez pas eues. Donc en fait, une idée, ça se partage. Il ne faut pas être radin ou protecteur de son idée.
C'est intéressant parce que moi, je serais un peu entre deux. C'est-à-dire que pour moi, il y a un vrai truc de... je suis assez convaincu que en fait, ce n'est pas l'idée qui compte, c'est l'exécution. Parce que en fait, tu peux lancer un média web féminin, par exemple, il y a 152 000 façons de faire des façons infinies en fait de faire ce média. Et je suis à peu près convaincu que, alors par rapport à l'idée et au partage de l'idée, pour moi il y a un truc aussi où c'est important pour moi de garder l'idée le temps que je la fasse fermenter de façon tranquille et de pas la sortir tout de suite. C'est un peu, il y a une forme déjà de cultiver le désir en moi de cette idée et de la faire grandir. Et je sais que quand je vais commencer à la sortir, si je la sors trop tôt, ça peut faire un peu comme un flan, tu sais, qui... comme ton Gaston Lagaffe, là, tu sais, ce fameux pote qui est un peu dépressif et lui ramène un énorme flan et le flan, il fait... Et le mec, il fait... Oh, mais non. Et je sais que ça m'est parfois arrivé, tu vois, de sortir une idée trop tôt, là où moi, j'étais pas encore tout à fait convaincu que c'était un truc que j'avais envie de faire et de me rendre compte... Et en même temps, peut-être que c'est une bonne chose aussi, tu vois, qu'en la partageant, elle partait aussi vite. Et peut-être aussi que c'est une façon comme une autre de tester, de voir que finalement, c'était pas une bonne idée pour moi. Mais je sais aussi que j'avais pas tout à fait calculé le truc, quoi. Tu vois, j'avais pas encore terminé de la façonner, de la faire grandir, de la faire évoluer, etc. Donc voilà, je suis un peu mitigé par rapport à l'idée. Et après, je suis très d'accord sur l'idée de l'aller la tester. Et je sais pas comment tu le vis toi, mais pour moi, une bonne idée, et surtout quand tu crées une boîte ou quand tu crées un service ou peu importe, c'est avant tout c'est avant tout un problème que tu rencontres toi en tant que personne et à laquelle tu trouves pas de solution.
Tout à fait. Il y a plein de choses. Déjà, le fait que ce qui est important, c'est peut-être l'exécution et moins l'idée, en tout cas en termes d'écriture, c'est hyper rassurant. Parce que pour revenir au tout début de mon idée, moi, mon idée, c'était donc l'idée de mon livre, c'était je vais raconter l'histoire d'une femme qui est beaucoup trop amoureuse de son mari. Et en fait, c'est l'idée à la fois, à mes yeux, la plus géniale du monde, mais à la fois aussi la plus banale. Et donc, il y a quelque chose aussi un petit peu de rassurant en disant que dans un projet long, en fait, ce qui va se passer, c'est tout ce qu'on va y mettre de soi. Et sur un pitch aussi banal que c'est l'histoire d'une femme très amoureuse de son mari, on peut y mettre, moi j'y ai mis tout mon cœur et tout ce que je suis et tout ce que j'aime, mais quelqu'un d'autre aurait eu la même idée au même moment, aurait sorti un livre qui est tout à fait différent.
J'espère,
et,
en tout cas.
Oui, on espère. et je pense que c'est la même chose avec toi, avec ta boîte, c'est ce que tu disais. Donc il y a aussi quelque chose d'un peu rassurant de se dire, finalement, l'idée... Alors je pense qu'il faut tomber amoureux de son idée et tout, on développera peut-être ça, mais il y a aussi le côté, ça va être qu'un réceptacle à tout ce qu'on est. Si demain, tu vois, tu veux ouvrir un café, bah en fait, et que moi je veux ouvrir un café, ça n'a aucun rapport, oui, parce que tu vas y mettre tout ce que t'es, tout ce que t'as appris, toutes tes compétences. Et donc moi, je trouve ça assez beau et rassurant, parce qu'il y a ce côté aussi, bah c'est un peu la somme de tout ce que t'as fait et de tout ce que tu es. Donc finalement, l'idée n'est que cette petite pépite. Après, je suis d'accord avec toi sur le côté un peu flanc ou pépite, tu vois, il faut tomber amoureux de son idée. Et c'est vrai que moi, je suis vraiment tombée amoureuse de cette idée parce que c'était exactement ce que j'avais envie de faire, ce à quoi j'avais envie de réfléchir à ce moment-là, sur la question de l'amour-passion, de est-ce qu'on peut aimer trop quelqu'un, est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce petit bruit? Tu as un chat?
Non, c'est tous les lundis matins, il y a une personne qui vient passer la serpillière et qui cogne contre les bois.
Ah, d'accord.
Rien à voir.
Très bien.
Avec un chat.
On la salue. J'ai un peu perdu le fil. Ah oui, je suis tombée amoureuse de mon idée. Et là, je me suis dit, cette fois-ci, c'est la bonne. Pas le jour J, mais plutôt dans les semaines et les mois qui ont suivi. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, donc mon mari, qui est mon premier roman, j'avais eu plusieurs idées avant ça, d'idées d'histoire. Je me disais, ah, ce serait bien que je raconte telle histoire. Et j'écrivais une ou deux pages, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis après, rien. Et il se passait rien, puis les semaines passaient, puis je passais à autre chose. Et donc, en fait, mon mari est né un peu de la même manière. C'est-à-dire que je me dis, ah, j'aimerais trop écrire l'histoire d'une femme qui est folle amoureuse de son mari. Je dis, ah, quand même, j'aime bien cette idée, ça me parle, ça dit, voilà, des choses qui me touchent. Et donc, j'ai commencé à écrire 10 pages comme d'habitude. Sauf qu'une semaine plus tard, j'avais encore envie d'écrire 10 pages. Et un mois plus tard, j'avais encore envie d'écrire une page. Et puis, un an plus tard, deux ans plus tard, trois ans plus tard, ça m'intéressait encore. Et j'avais encore envie d'y réfléchir. Et je me disais encore que cette idée, ah ouais, carrément, et il pourrait se passer ci, il pourrait se passer ça. Et donc, il y a aussi l'idée, c'est sur le temps long. Je pense que tu sens s'il y a cette espèce de flamme qui fait que ça te titille encore. Et je fais une dernière petite parenthèse, ça me fait penser aussi, j'ai pas mal d'amis qui font de la recherche et on discutait ensemble de leur sujet de recherche, leur sujet de thèse, et c'était un petit peu ce qu'ils me disaient. Ils me disaient, mais en fait, la question, c'est pas est-ce que ça m'intéresse maintenant, c'est il faut que ça m'intéresse maintenant, mais aussi dans un an, mais aussi dans deux ans, mais aussi dans trois ans, il faut que je puisse avoir envie de me lever, d'aller à la bibliothèque pour réfléchir à ce sujet. Il y a un peu la même chose avec un roman sur le temps long. C'est ok, ça m'intéresse aujourd'hui, mais est-ce que dans trois ans, je serai encore en train de me dire « Mais c'est tellement intéressant, mais oui, il faut creuser cette question. »
Allez écouter l'épisode d'Histoire de succès de Maud, parce que tu parles plus longuement de l'écriture de ce roman, notamment. T'as mis combien de temps à l'écrire ?
Ben, je crois plus de trois ans. Plus de trois ans.
Pas à plein temps, donc ?
Non, pas du tout à plein temps.
T'étais salariée.
J'étais étudiante au début. Oui, étudiante, après en stage et après salariée. Ouais. Donc c'était par petites touches. Et donc c'était d'autant plus importante que j'aime cette histoire parce que je la quittais souvent. C'est-à-dire que j'allais écrire un peu quelques pages et puis après j'avais un nouveau stage, donc j'étais à fond, puis j'écrivais plus. Puis après je reprenais pendant les vacances, etc. Mais donc il fallait quand même qu'il y ait cette petite flamme qui continue et pas que je l'entasse dans un tiroir parce que bah, la vie.
Ouais. Et pour toi, donc une bonne idée, c'est une idée qui tient dans le temps,
bah ouais.
Où tu vas pouvoir tirer le fil dans le temps, quoi. Tranquille.
Ouais, qui trois ans plus tard te donne encore envie de te lever le matin.
Ouais.
Si ton rêve c'est d'ouvrir un café, il faut que dans trois ans tu sois encore ah ouais trop bien et puis en fait peut-être qu'on pourrait faire ci et peut-être qu'on pourrait organiser des concerts et peut-être que et qu'il y a encore cet enthousiasme.
Oui, et puis après en fait pour moi il y a aussi un truc important qu'il faudrait préciser, c'est que tu peux avoir une idée de fond et après le truc c'est que ouvrir un café par exemple, ça peut venir, il peut y avoir plein d'idées intermédiaires qui vont bien venir faire germer, faire grandir le projet plus global, quoi. En tout cas, on va vous parler de ça, nous, tout au long de ce podcast. Je crois pas non plus que, pour moi, après, l'idée, c'est pas de venir parler de créativité en tant que telle, c'est-à-dire de venir se dire, OK, le matin, tu te lèves, t'as une idée de projet, c'est ça, et en fait le lendemain tu l'as exécuté et c'est bon, tu vas faire autre chose quoi. C'est pas forcément le thème du podcast, désolé si c'est ça vous... Non mais c'est vrai, on peut, c'est pas vraiment le même exercice quoi.
C'est plutôt sur les rêves au long cours. C'est-à-dire, j'ai toujours eu envie d'écrire. Je reçois beaucoup de messages sur Instagram comme ça. J'ai toujours eu envie d'écrire un roman. Qu'est-ce que...
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Je me conseille. Ou toi, peut-être j'ai toujours voulu monter ma boîte.
Bah oui.
Parce que toi, tu me fais parler, mais tu ne m'as pas dit, toi, ton idée.
Attends, avant de parler de moi, avant de parler de moi, j'aurais bien aimé savoir, pour parler de l'idée justement de mon mari, est-ce que quand tu te lances dans l'écriture de mon mari, tu as déjà la fin telle qu'elle existe ?
Non.
Et on va faire en sorte de ne pas vous spoiler la fin.
Non, non, non et non.
Oui.
Non, je n'ai pas du tout la fin, j'ai précisément que l'idée.
Incroyable.
C'est-à-dire que je n'ai pas du tout l'intrigue, l'histoire. Ce n'est pas un livre, en fait, c'est une idée. C'est, voilà, je veux raconter l'histoire d'une femme qui est follement amoureuse de son mari.
Okay.
Excuse-moi. Donc moi, c'est très clair dans ma tête que je veux qu'elle ait 40 ans, qu'elle soit mariée, qu'elle ait deux enfants, que ça soit une fiction assez loin de moi. Pas l'histoire d'une jeune étudiante de 25 ans qui vient d'emménager avec son mec. Pas du tout. Je voulais que ça soit loin de moi. Et donc j'ai l'histoire de cette femme qui, au bout de 15 ans de vie commune, aime son mari comme au premier jour. Et c'est tout. Et donc j'écris les premières pages qui sont encore aujourd'hui les premières pages...
Incroyable.
Du livre sur, voilà, je suis amoureuse de mon mari, mais je devrais plutôt dire, je suis toujours amoureuse de mon mari. J'aime mon mari comme au premier jour d'un amour adolescent et anachronique. Je l'aime comme si je n'avais jamais été quittée, etc., etc., etc. Et donc, c'est vraiment, c'était cette idée-là. Mmh. Et donc, j'ai écrit ça. Et après, bah, on en parlera. La suite, c'était
oui.
Un peu, et après. Mais il n'y a pas d'histoire, mais il n'y a pas de fin. Mais en fait, ce n'est pas un roman, c'est juste une idée.
C'était une idée.
C'est une idée.
À la base. Alors moi, l'idée de, pour créer Mademoiselle vient de plein de choses. Et en fait, je crois qu'il faut remonter à quand j'ai 17 ans et que je tombe amoureux de cette fille qui va devenir ma femme. Et elle était abonnée à Jeune et Jolie à l'époque.
Tout à fait.
Et on faisait ensemble les tests à la con, tu vois.
Mm-hmm.
Donc c'était un truc qu'on faisait, voilà. On était adolescents, on faisait ça. Et c'est vraiment marrant parce que je suis pas sûr que si on, je lui en reparle aujourd'hui, elle s'en souvienne, quoi, tu vois. Mais moi, ça m'a vraiment marqué parce que c'était un premier pas dans la presse féminine que je connaissais pas du tout. Et tu vois, parfois, j'avais un peu ce truc de... Bah, c'est quand même un peu tiré par les cheveux, quoi, tu vois, par rapport à notre vraie vie, à nous, par rapport à ta vie, à toi, parce que ça s'adressait à elle. J'avais un peu ce truc de... ok, c'est marrant, c'est fun, mais en même temps, ça te ressemble pas vraiment, quoi. Quelques années plus tard, je rentre chez Pinky pour monter leur site web et je découvre la presse féminine de façon beaucoup plus large. Moi, j'ai fait des études de communication avant et dans ces études de com, il y avait plein de travail universitaire, c'est une formation universitaire à la base, d'études. De la ligne éditoriale, du contrat de lecture, ce qu'on appelle le contrat de lecture, c'est-à-dire ce qui se passe entre une rédaction et le lecteur ou la lectrice, etc. Et je découvre la presse féminine et je me rends compte à quel point c'est, à mon sens, complètement hors sol par rapport aux vraies femmes et par rapport aux femmes qui le lisent autour de moi, c'est-à-dire mes amies, globalement à la fac. Et je creuse un peu avec elles et je me rends compte que non seulement elles le lisent, donc elles l'achètent, elles le lisent, et en plus, ce qu'elle me dit, c'est qu'après l'avoir acheté, souvent, elles se sentent un peu merdeuses parce qu'elles ne sont pas à la hauteur. Et en fait, très longuement, le chemin a pris du temps. Mais en fait, moi, déjà, à la base, je voulais toujours monter ma boîte. J'ai toujours voulu monter ma boîte. J'avais un vrai truc de vouloir... J'ai créé des assos quand j'étais plus jeune, etc. J'avais un vrai truc d'entrepreneur. Je ne sais pas trop pourquoi avec le recul, mais j'avais envie d'être mon propre boss. Ça ne m'intéressait pas. Je crois que j'ai beaucoup vu mon père galérer avec ses patrons et que je m'étais dit... Peut-être la meilleure façon, c'est de devenir soi-même patron. Et donc, j'ai bossé pendant 7 ans chez Pinky. C'était très long, mais on va en reparler après pour dans le prochain épisode. On va vous parler de se lancer. Et en gros, avec le temps, petit à petit, je me suis dit, mais en fait, il n'existe pas de magazine féminin qui parle aux jeunes femmes qui existent vraiment, quoi, qui sont dans ma vie. Donc, pourquoi pas le faire, quoi. Et ça, c'était vraiment le pitch de base de Mademoiselle. C'est-à-dire que 15 ans plus tard, quand je revends la boîte, franchement, si tu m'avais dit en 2005, bah, en fait, ta boîte, dans 15 ans, elle va devenir ça, est-ce que tu seras OK? J'aurais fait yes, j'aurais signé tout de suite parce que ça correspondait vraiment à l'idée que j'en avais. Et c'était même, tu vois, la version augmentée, plus que ce que j'aurais jamais pu rêver de ce que la boîte aurait pu devenir, quoi. En tout cas, par rapport à l'idée que j'en avais en 2005 où je lançais dans mon grenier, quoi, tu vois. Donc, ouais, ça a été un long chemin. Mais pour moi, c'était la bonne idée dans le sens où il n'y avait pas de médias féminins équivalents à l'époque. Entre-temps, le féminisme est arrivé, donc il y a eu plein de choses. Mais je sais que Mademoiselle a été l'un des tout premiers médias, et je revendique aujourd'hui, je n'ai aucun problème, à lancer ça avant que ce soit cool, en fait. Hein, avant que le féminisme soit cool, avant qu'il y ait tous ces comptes Insta qui soient devenus et qui ont fait grandir les idées, etc. Je crois que la première prise de conscience pour moi que Mademoiselle, avant je disais progressiste, tu vois, mais d'associer Mademoiselle à une idée féministe, je crois que c'est en 2009. Donc, et ça correspond à peu près à l'année où ma fille rentre à l'école et que je vois à quel point les garçons et les filles sont totalement différenciés dans leur rapport au monde, etc. Et ça me fait mais c'est pas possible, en fait ça commence dès le plus jeune âge. Effectivement, ça commence dès le plus jeune âge.
Et je m'en souviens moi de mon côté de la première fois où j'ai entendu parler de Mademoiselle. Je pense que j'étais peut-être en terminale et c'est là, mais tu connais Mademoiselle? Et je me souviens, tu vas rire, bah oui. J'avais tapé Mademoiselle sur Google avec un...
Mademoiselle écrit normalement,
exactement,
quoi.
Exactement, et ça avait été corrigé en disant, ah non, je pense que vous cherchez Mademoiselle avec un Z.
Incroyable.
Mais oui, c'est ça.
Merci,
et j'avais...
Google.
Ah ouais, je me suis dit, waouh, et c'est ça. Et je me souviens, effectivement, ça avait été... c'était tout à fait nouveau. Et je pense que Mademoiselle se différenciait aussi parce que ça avait un peu ses hardcore fans. C'est-à-dire que j'avais des copines qui étaient fans. Je sais pas exactement ce qu'elles achetaient, mais elles se retrouvaient avec des autocollants de Mademoiselle. Donc je sais pas ce qu'elles commandaient sur son site. Je me souviens pas bien ce que tu vendais au début.
Mais je vendais rien.
Mais elles avaient des autocollants, des machins,
des
trucs.
C'est un autre sujet, mais je vendais pas. L'une de mes idées à la base, c'était OK, on va faire des stickers et on va demander aux gens de nous envoyer, aux lectrices, de nous envoyer des enveloppes des enveloppes timbrées, et en fait tous les midis ou quasi tous les midis, enfin, pas tous les midis, j'exagère, mais très régulièrement on faisait des ateliers où on remplissait les enveloppes de stickers et on les renvoyait après, et je me pointais parfois avec 3-4 énormes sacs à la poste et puis en fait on était trop contents parce qu'après sur Insta etc on recevait des tas de messages de nana qui avait scotché des stickers partout, quoi.
Bah, je me souviens de la période sticker, et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, à un moment t'as dit, je me souviens plus bien de l'expression, mais un pitch très clair. Enfin, moi mon pitch très clair, c'était le média féminin qui parle des femmes telles qu'elles sont vraiment, et que 15 ans plus tard c'était toujours ça, et je pense que c'est aussi ça une idée, ou en tout cas une bonne idée, c'est une idée très claire et bien formulée. Et parfois, ce qui peut être dur quand on se lance, c'est quand l'idée en elle-même, c'est genre, je pourrais créer un média féminin, mais en même temps, ça serait aussi peut-être une agence, et puis en même temps, on ferait ça, puis en même temps, on ferait ci, puis hein. Et donc, il y a aussi ça qui rend la chose plus compliquée. J'ai l'impression que dans ton cas comme du mien, il y a un peu un moment aussi où une idée est simple. Et moi, c'était pas genre, je vais raconter l'histoire de cette femme, et en même temps, il va se passer ça, mais en même temps, ça raconte aussi ça. Et ça, c'est dans un deuxième temps, parce que comme tu dis, les idées ensuite se déclinent. Mais au début, la petite pierre précieuse ou la petite pépite, c'est juste un truc très simple et très clair. Et je pense qu'il part pas dans tous les sens. Et ça aide, après, on en parlera dans les épisodes suivants, à garder le cap.
Ouais.
C'est-à-dire que quand on est au milieu de l'océan et qu'on est perdu, c'est-à-dire que si mon idée de départ, c'était « je vais raconter l'histoire d'une femme très amoureuse », mais en même temps, elle est amoureuse. Mais attendez, c'est plus complexe que ça. Parce qu'en fait, c'est ambigu parce qu'elle est amoureuse, mais en même temps, est-ce vraiment de l'amour ? Mais non, il fallait que ce soit « c'est l'histoire d'une femme qui est beaucoup trop amoureuse ». Point. Peu importe ce que ça veut dire.
Je suis trop d'accord. Et pour moi, j'irais même jusqu'à dire, écrivez une phrase en 10 mots, pas plus, pour décrire votre projet et décrire l'idée de votre projet. Et en fait, si c'est trop long, bah faites en sorte de la couper et de vraiment faire en sorte que votre idée tienne en 10 mots, pas plus.
C'est peut-être parce qu'il y a plusieurs idées si c'est trop long.
Ouais.
C'est peut-être qu'il y a 3 idées dans une idée et la question c'est, ok, c'est quoi vraiment ? Parce que si tu me disais, je veux faire un média qui parle aux femmes telles qu'elles sont vraiment, et en même temps, ok, c'est quoi vraiment l'idée ?
L'idée.
Enfin, majuscule, majuscule. Mais oui. Et c'est vrai que, tu vois, j'anime des ateliers d'écriture. On en reparlera peut-être. Et ça fait partie un peu du travail que je fais avec les personnes qui suivent mes ateliers. C'est de comprendre un peu. Bon, là, on va rentrer plus dans le roman, mais quelle est ton intrigue? Quelle est ton histoire? Quel est ton thème? Et souvent, je creuse en disant, mais pourquoi tu racontes ça? Mais pourquoi tu racontes ça? Mais en fait, c'est quoi l'idée? Ah, mais c'est ça. Ah. Bon, bah, en fait, peut-être que 60% de ton texte, c'est pas important pour toi pour le moment, ouais. Donc on le met de côté. Concentre-toi déjà sur ce que tu veux vraiment raconter. C'est quoi vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment?
Délaguer, tu veux dire?
Ouais, c'est ça.
Faut aller au plus.
Bah, en tout cas, au début, après, ça, oui. ça prend de la chair et ça grossit et ça grandit et ça fait des petits bébés. Mais au début, je pense que c'est important dans un projet long. Voilà, mais même tu prépares demain un marathon, c'est important de savoir ce que tu prépares. Oui. Tu veux dire, je prépare un marathon, et puis en même temps, le vélo, et puis en même temps, ou alors ça va être un triathlon. Ouais. Mais je pense que c'est important aussi de savoir où tu vas.
Et puis, même si tu te dis un marathon, mais en combien de temps?
Voilà.
Et un marathon, est-ce que c'est la première fois que tu le fais, donc tu as juste envie de le finir, et c'est déjà pas mal. Ou alors, si c'est ton troisième marathon, peut-être tu te dis, j'ai envie de faire mieux que l'année passée, ou que la fois dernière. Bref.
Une idée, 10 mots. Beaucoup de blabla pour dire ça.
Non mais je trouve ça hyper important en fait de commencer par là. Et effectivement, j'ai fait pareil pour mes podcasts. Tu vois, pour moi, mes podcasts, je serais capable de te dire vraiment en 10 mots pour chaque podcast ce qu'ils racontent, quoi. Voilà, point barre.
L'idée.
Celui-ci, je suis moins sûr. Non mais si.
Ah mais non.
Bien sûr que si. On va vous parler de comment faire pour bâtir un succès dans le temps.
Dans le temps.
Dans le temps.
Dans le temps.
Ouais, en même temps, on s'auto-convainc que c'est une bonne idée, tu vois. Alors, je trouve. C'est du work in progress. On vous fait partager aussi. Enfin, tu vois, on partage
vous
un petit peu.
Vous êtes dans les coulisses.
Vous êtes dans les coulisses. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais parler? On a parlé des différentes étapes. On a parlé de pourquoi je sens que cette fois-ci, c'est la bonne.
Ouais, que c'est la bonne idée. Bah, ouais. Le côté. Bah, ça m'intéresse toujours un mois plus tard, deux mois plus tard. Et surtout, ça prend le devant. Ça grille la priorité des autres choses que je suis en train de faire, parce que cette idée, je la trouve tellement géniale et excitante pour moi, ça me donne des petits guilis dans le ventre. Donc, voilà, il y a cette chose qui m'aspire et qui est encore plus excitante pour moi que bah, toutes les autres choses que je peux faire.
Alors, tu vois, je trouve ça trop intéressant. Après, je ne sais pas si c'est le thème ou pas, mais par exemple, moi, j'ai des idées de podcasts là qui viennent, qui sont là et qui durent, mais je n'ai pas le temps de les mettre en place. Donc, et je sais pas si tu vois, par exemple, dans ton temps d'écriture de livres, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent, ou alors tu t'interdis pendant ce temps-là de t'ouvrir à d'autres idées?
Là, je suis en train d'écrire. Enfin, c'était la même chose pour le premier et le deuxième. Je pouvais pas me dire je suis en train d'écrire un roman. On va rester sur le premier. Je peux pas dire je suis en train d'écrire mon premier roman et en même temps, ah, il y a une autre idée à côté. Tiens, je vais réécrire 10 pages. Mais ça, c'est aussi parce que cette idée, je l'aimais tellement. Que déjà, je pense que je fermais la porte aux autres idées. Et quand j'en avais, je les notais un peu dans un carnet en me disant oh, bah, pour plus tard. Mais il y avait une. C'est comme quand t'es amoureux. C'est-à-dire que oui, il y a des gens que tu peux trouver très sympathiques. Mais t'es tellement. Enfin bon, bref, on va pas.
Ouais, je suis d'accord.
Voilà, je sais pas comment pousser le parallèle, mais je les regardais même pas, les autres idées. Elles m'intéressaient pas, elles étaient moins belles, moins brillantes. Mais là, je voulais celle-là, en fait.
Je suis d'accord que ça marche aussi pareil pour l'amour et pour le couple, en fait, d'une manière générale. J'ai envie de juste m'arrêter 2 secondes sur écrire les idées dans un coin, parce que j'ai beaucoup fait ça. Donc pendant 10 ans, j'avais des carnets dans tous les sens, etc., qui étaient moins des carnets de notes. Ça, je regrette un peu de pas avoir noté plus le quotidien de Mademoiselle, tu vois, de ce que je vivais, etc. Mais en revanche, dès que j'avais une idée, je la notais dans un coin et je revenais très régulièrement tous les ans, on va dire, sur ok, c'était quoi, qu'est-ce que j'avais noté l'année dernière, que j'ai peut-être mis de côté, que j'avais pas fait, que j'avais pas exécuté, et sur lequel j'ai envie d'aller maintenant. Et il y avait toujours des pépites, en fait. Donc vraiment, prenez le temps d'écrire, de noter dans un coin, parce que c'est des idées qui peuvent vous resservir peut-être dans 5 ans, 10 ans, peu importe, quoi. Alors il y a une anecdote dont j'aimerais bien parler qui illustre bien l'idée, enfin en tout cas la différence entre avoir cette idée et en fait la réaliser. J'ai lancé Rocky en 2018, si je me trompe pas, fin 2018, début 2019. Rocky qui était en gros la grande sœur de Mademoiselle, pour les Mademoiselles qui avaient grandi, etc. C'est une idée que j'avais depuis au moins 2013-2014, je crois, et que j'ai mis beaucoup de temps à réaliser. Et avec le recul aujourd'hui, je regrette, parce que c'est une vraie idée qui me portait. Et tu vois, typiquement, j'étais tellement amoureux de l'idée de Mademoiselle que j'ai pas regardé à côté, alors qu'en fait, ça, je crois que ça aurait nourri beaucoup plus l'écosystème, si tu veux. C'est un des regrets que j'ai, tu vois, de pas l'avoir lancé beaucoup plus tôt. Et c'est marrant parce que quelques semaines plus tard, après le lancement, j'ai quelqu'un qui m'a écrit en me disant que j'étais quand même sacrément gonflé parce que il y a 3 ans de ça, cette personne m'avait envoyé un mail pour me dire que ça serait une super idée de lancer un média pour les mademoiselles qui ont grandi parce qu'elles-mêmes ne se retrouvaient plus dans mademoiselles parce qu'elles-mêmes avaient grandi entre temps, etc. Et je me souviens qu'en fait, j'avais pas spécialement répondu à ce mail, tu vois, ou alors j'avais dû répondre un truc du genre ah bah ouais, c'est une super idée, wink wink, enfin tu vois, genre rien du tout. Ouais. Mais en fait, c'est. Enfin, moi, ça faisait déjà 2-3 ans que j'avais cette idée en tête, donc c'était pas une nouvelle idée pour moi, c'était juste eh bah c'est cool, mais d'un autre côté, enfin, faut le faire, quoi. Et aujourd'hui, j'ai pas l'espace mental, j'ai pas l'argent, j'ai pas plein de choses pour le faire, donc je l'avais pas fait. Et cette personne me reprochait, en fait, de lui avoir volé quelque part. L'idée est de m'être appuyé sur son idée à elle pour finir par lancer Rocky. Et en fait, c'est marrant parce que, heureusement, je sais même pas en fait ce qu'elle aurait fait, mais peu importe, c'était juste pour me rassurer moi mentalement que j'avais bien cette idée avant qu'elle me l'envoie. C'est que, à la base, je voulais appeler ce média. Je sais pas si je vais le laisser, ça peut-être que je le biperai parce que peut-être que c'est toujours une bonne idée. J'en sais rien.
Bip.
Je trouvais que c'est un bon nom.
J'adore en fait le suspense de l'auditeur qui va être là, mais c'est quoi le bon nom?
Je crois vraiment que je vais le biper.
Donc c'était vraiment un nom incroyable.
Ouais, exact, c'est le meilleur nom. Mais bref, entre-temps, après, j'ai appelé ce projet Rocky. Et en fait, je me souviens très bien quand j'ai eu ce premier nom, donc, qui bipait, j'avais adoré l'idée. Je m'étais dit, putain, non, mais en fait, ça ouvre tout de suite plein de choses. Ouais. Tout comme quand j'avais trouvé Mademoiselle, tu vois, il y avait un vrai truc de, OK, ça marche. Ça amène plein de choses, ça dit plein de choses, juste à partir du nom. Et j'avais enregistré le nom de domaine. Et donc, j'avais une date claire de quand est-ce que j'avais enregistré ce nom de domaine. Et c'était 6 mois avant que cette personne m'envoie ce mail, quoi. Comme je le disais, moi, j'avais déjà cette idée depuis 2-3 ans, quoi. Bref. Tout
et
ça
surtout
pour dire.
Que cette dame n'avait pas donné le nom. Je préfère. Elle avait juste dit ah, oh, ça. Tout. Oui, voilà.
Oui.
C'est pas genre ah, oh, tiens donc. Non, non. C'était
non, non,
juste
non.
Ah, il faudrait lancer un média sur cette nouvelle cible.
Exactement. Et. Ok,
voilà.
Vu, tu vois.
Ok, vu. Voilà.
C'est cool, mais en fait, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment de se lancer et de le faire, quoi. Et en fait, comment tu fais à partir de Mademoiselle pour lancer un équivalent, on va dire, un peu plus âgé, un peu plus grand, un peu plus adulte? Bah, encore une fois, il y a 100 000 façons de le faire différentes, quoi. Et je crois que moi, ce qu'on avait trouvé Rocky, ça m'allait plutôt bien. Et donc voilà, ouais, c'est un bon exemple pour venir dire, en fait, ce qui compte, c'est pas d'avoir l'idée, c'est vraiment de la mettre, de la concrétiser. Et si vous avez une idée, que vous la partagez à quelqu'un, et que, en fait, cette personne en fait quelque chose, bah, des os, pas des os, en fait, mais à un moment donné, c'est pas parce que vous avez une idée, vous, et que vous la mettez pas en place, que si quelqu'un d'autre le fait à votre place, bah c'est une ordure, c'est juste quelqu'un qui l'a fait, quoi.
Est-ce que je trouve fou aussi, c'est à quel point cette jeune personne, je la connais pas,
oui.
Cette femme et moi, nous n'avons pas du tout la même conception de ce que c'est une idée et une bonne idée. C'est-à-dire qu'il faut quand même une vision de l'idée assez différente de la mienne pour dire à quelqu'un qui a monté sa boîte, qui a créé son média, et tu lui dis juste... tiens, tu pourrais refaire la même chose sur une autre cible, et la personne le fait, et se dire ah, c'était mon idée. Je veux dire, pour moi, tu vois, c'est une idée générique.
Oui.
Et d'ailleurs, en droit, j'ai fait un petit peu de droit, il y a cette idée. Alors, pardon pour les vraies personnes qui s'y connaissent, qui vont dire que que mes mots sont pas très précis, mais il y a ça notamment, tu vois, dans les noms. De ce que tu peux protéger ou non et les idées que tu ne peux pas protéger en droit de la propriété intellectuelle, notamment quand c'est des idées banales. Et je sens de ma prof de propriété intellectuelle qui disait « Non mais ça c'est un nom banal ». Mais c'était vraiment le cas. Elle dit « Si tu fais un journal féminin qui s'appelle Journal Féminin, tu ne peux pas protéger Journal Féminin parce que juste c'est descriptif, c'est banal ». Et donc il y a aussi ce côté, je me suis un peu perdue dans mon truc, mais juste toutes les idées, enfin il y a des idées qui sont juste... Sauve-moi, je me suis empêtrée dans mon truc. Mais en gros,
il y a des idées qui sont banales.
J'ose pas le dire, je veux pas être méchante. Oui, c'est un peu banal, je suis désolée. C'est comme si je te disais. Enfin, ouais. Non, comme si tu disais, tu devrais créer un autre podcast. Oui, bah oui, t'as ta boîte de podcast, t'en fais plein, oui, sans blague.
Pour moi, c'est pas déconnant de dire que quelqu'un qui vient me dire, tu devrais écrire pour. Moi, je m'y retrouve plus. Avant, je m'y retrouvais, maintenant, je m'y retrouve plus. J'ai l'idée de faire ça. En fait, pour moi, c'est. Ok, bah oui, c'est sûr que c'est banal comme idée. C'est pas...
Surtout qu'il y a pas. Pour moi, il n'y a pas d'idée, même encore, il n'y a pas un nom.
Non.
Genre, ah, mais tu devrais faire ça et l'appeler Magenta, ça serait génial. Et en fait.
Super bon, Magenta.
Laisse tomber. Et en plus, la Red Chef, en fait, ce serait parce que t'es ça, et en fait le truc ça serait aussi un podcast, non mais laisse tomber Magenta, voilà, mais tu vois il n'y a pas, bref tout ne fait pas idée.
Il y a un mec qui s'appelle Peter Koenig qui a beaucoup travaillé sur le rapport à l'argent et qui a beaucoup inspiré Christian Junot qui est un peu mon parrain entre guillemets d'histoire de l'argent, qui parle de source en ce qui concerne une idée, et c'est trop intéressant parce que lui il dit qu'en gros la personne qui est la source d'un projet, c'est une personne, c'est pas une personne qui a une idée, c'est une personne qui a une idée ou qui a récupéré une idée et qui a fait le premier pas pour la mettre en place. Et ça, je trouve que ça change tout, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, une idée, tant qu'elle est une idée, c'est juste une idée, quoi. Et à un moment donné, la personne qui décide d'y aller et de se lancer dans le projet, c'est elle qui fait ce fameux pas dont on vous parlera dans le prochain épisode.
Tout à fait. Je suis contente qu'on soit revenu en arrière parce que j'aime vraiment, c'est moi, pour tout vous donner les coulisses, c'est moi qui t'ai demandé est-ce qu'on pourrait enregistrer avec ton anecdote de l'idée et de ce mail, parce que je trouve ça vraiment symptomatique et très intéressant de quelle conception on peut avoir de c'est moi qui ai eu l'idée, c'était mon idée. Qu'est-ce que ça veut dire ça, c'est mon idée ?
Ça ne veut rien dire. Les idées sont dans le cloud, elles sont dans l'air.
C'est ça.
Il y a Alice Gilbert, d'ailleurs, qui parle dans son bouquin Comme par magie,
bien
qui parle
sûr.
De sa fameuse idée de roman, là, qui est incroyable.
Cette anecdote.
Tu veux la raconter ?
Bah, effectivement, dans ce livre, donc c'est l'écrivaine qui a écrit le fameux best-seller Mange, Prix M, Eat, Pray, Love, Julia, on t'embrasse, et donc qui a écrit un livre sur l'écriture créative qu'une amie podcasteuse que tu dois connaître, Marine Baosson, m'a offert quand mon mari est sorti. Elle m'a dit « Ah, j'ai un petit cadeau pour toi » et elle m'a envoyé ce livre, ce qui était une attention folle, parce qu'elle savait qu'il y avait forcément un peu de tourbillon dans ma vie. Et dans ce livre, il y a beaucoup de questions de l'idée, et donc cette écrivaine défend l'idée qu'il y a plein d'idées qui se baladent dans le ciel, et que il y a quelqu'un en premier qui va l'attraper et la mettre en œuvre. Mais donc c'est un peu une course contre la montre, et si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre qui la mettra en œuvre, et la question c'est qui va l'attraper au vol.
Et elle a une anecdote dingue avec une idée de roman.
Elle a une idée de roman assez précise, voire même très précise. Et en fait, le livre sort. Et c'est pas elle qui l'a écrit. Et elle a cette sagesse de se dire, les idées étaient dans l'air. Bien sûr qu'on a eu un peu l'idée au même moment, parce que plein de choses. Et en fait, c'est pas moi qui l'ai mis en œuvre. Et c'est pas grave. Les idées continuent à voler dans l'air. Et je pense que c'est vachement le cas aussi dans l'entrepreneuriat, des idées de boîte. De se dire, il faudrait vraiment faire ça.
Oui, parce qu'à un moment donné, en fait, une idée n'est rien d'autre pour moi qu'une agglomération de plein d'informations qui se trouvent à droite à gauche, en fait, et que ton cerveau finit par analyser, parfois de façon très inconsciente, finit par mettre dans un coin. Enfin, en tout cas, moi, j'ai la sensation que j'ai plein d'idées qui viennent comme ça, qui sont à droite à gauche, et à un moment donné, ton cerveau, il les met tous ensemble, et il y a un truc qui fait une idée, quoi, et qui est une nouvelle idée, qui est juste un truc qui t'appartient à toi, qui peut-être appartient à quelqu'un d'autre aussi, j'en sais rien, mais qui est très dans des trucs qui se trouvent dans l'air du temps, entre guillemets, quoi, tu vois, que tu vois à droite à gauche, que tu vois sur internet, que tu vois dans des séries, dans des machins, dans des films, etc. Peut-être avec des discussions avec des gens, et qui finissent par devenir un truc un peu plus concret, quoi.
Et puis il y a aussi cette idée que on tombe amoureux de son idée et qu'elle balaie tout. Et c'est ça la différence entre un rêve et vraiment une ambition. C'est-à-dire que si je dis « j'aimerais bien ouvrir mon café », c'est pas la même chose que « je veux ouvrir mon café, ça me fait palpiter, je vais tout mettre en œuvre pour ouvrir mon café » parce qu'en fait c'est le rêve de ma vie et je le veux. Et donc j'ai trop envie parce que c'est tellement incroyable, tu te rends pas compte d'ouvrir son café. Et donc c'est aussi la différence entre une idée, une bonne idée, une idée, et une idée qui crée un... qui balaie tout, qui prend la priorité surtout.
Mais ça fait une très bonne transition pour l'épisode de la semaine prochaine, puisqu'on vous parlera de passer de l'idée à se lancer. RDV, jeudi prochain, 6h du mat.
Jeudi prochain.
Des bisous.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.